Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs et aujourd'hui je vous présente Karl.
Bonjour Karine, bonjour à tous les coins des joueurs.
Alors, est-ce que tu peux te présenter?
Oui, absolument. En fait, je suis Carl Brière de Synapse Games. C'est moi qui ai fondé Synapse Games en 2018 et avant, là, ça fait déjà un bon moment que je suis dans l'industrie du jeu de société. J'ai travaillé pour différentes compagnies, mais avant ça, je viens du domaine pharmaceutique, donc tout ce qui est science, santé et tout ça, c'est mon vrai domaine d'expertise.
Ok. Et est-ce que tu peux bah, un peu expliquer ton parcours, donc les études que tu as faites et puis le chemin que tu as parcouru pour en arriver aujourd'hui?
Oui, en fait, moi j'ai étudié justement, comme je le disais, en santé. Après le secondaire, j'étais au cégep et tout ça, et j'ai travaillé, je faisais mes stages et tout ça. J'avais besoin de sources de revenus. Hein. Je ne suis pas le seul à l'école qui a besoin d'un peu de. Un peu d'argent de poche. Donc, j'ai commencé à travailler aussi dans un entrepôt de jeux de société qui était tout près de chez moi. Et ben, j'ai commencé à jouer sur les heures de lunch et tout ça. Et j'ai adoré ça. Et avec le temps, ça a déboulé. J'ai fait de plus en plus d'heures là, en plus de travailler en santé. Et on m'a offert est-ce que tu aimerais ça travailler à temps plein avec nous? Je dis, ben, moi, je connais rien au jeu. Je connaissais pas Catan dans le temps ou les aventuriers du rail ou quoi que ce soit. Je connais rien là-dedans. Je dis, ah, c'est pas grave, tu vas voir, tu vas apprendre et tout ça. Donc, j'ai jonglé avec plus d'un an d'emploi pendant un petit moment. Et après ça, j'ai fait, c'est vraiment ça que j'ai voulu faire. Donc, je me suis lancé à temps plein et même plus dans le monde du jeu de société. Et c'est comme ça que j'ai commencé là, à travailler pour un distributeur ici canadien qui était aussi éditeur à l'époque et Philosophia, qui faisait Catan en français, Aventurier du Rail français, Carcassonne, Pandémie et autres. Et j'ai été en contact avec le monde ludique et j'ai jamais décroché depuis ce temps-là.
Et en plus, tu nous appelles du Québec, là.
Ah oui, pour nous ici, là, on est encore la matinée, j'ai juste pris deux cafés aujourd'hui.
Parce que là, il est 16h30 en France et toi, il est...
10h30. Donc, on a un 6 heures de différence.
Ok, et il est 10h30 au Québec. Super. Ok, et du coup, je voulais revenir donc... Dans tes débuts, est-ce que tu te rappelles un peu comment ça s'était passé? Tu étais directement distributeur, au niveau des jeux de société?
En fait, j'ai commencé à travailler vraiment dans l'entrepôt. Je rentrais les soirs de semaine pour mettre des autocollants, préparer des commandes, parce que c'était la période des fêtes, donc il y avait beaucoup de commandes. Donc, je rentrais les soirs, une fois que mon bébé était couché, pour aller travailler dans l'entrepôt à préparer des commandes. Et par la suite, mon premier emploi à temps plein était toujours au sein du distributeur, que j'étais commercial. Dans le fond, j'appelais les boutiques pour présenter les jeux et tout ça. Et avec le, ben, j'ai été promu directeur des ventes et là, ils ont acheté Z-Man Games et là, ça, le volet international est arrivé. Suite à ça, j'ai aussi travaillé pour. Ça fait longtemps que j'ai le goût de lancer mon. J'avais l'impression que j'avais acquis beaucoup de connaissances globales et je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, probablement que je ne le ferai jamais et j'avais peur de vivre avec cette espèce de regret-là de dire. J'aurais dû le faire. C'est dommage, j'avais une belle opportunité, j'ai manqué de courage et tout ça. Donc, vers la fin trentaine, j'ai décidé de vraiment me lancer à l'eau. Et j'étais chanceux parce que justement, quand j'ai décidé de faire ce choix-là, en même temps, je connaissais déjà bien Christian Lemay du Scorpion Masqué, que lui voulait lancer des cryptos. Il dit, j'aurais besoin d'aide pour l'international et tout ça. Je dis, ben moi, j'ai mon projet et en même temps, est-ce que. Comment on peut travailler ensemble pour que je puisse lancer Synapse Games et que on puisse lancer des cryptos ensemble et que je travaille au Scorpion Masqué. Et on a fait ça pendant plusieurs années là, de travail collaboratif ensemble, que ça a été très bénéfique pour les deux compagnies. Et depuis déjà un moment, je travaille à temps plein chez Synapse, puis on a plusieurs employés, on a des bureaux et tout ça.
Maintenant, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Maintenant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je fais des jeux, mais pas que. C'est-à-dire, tout ce qui est. Ben, je gère vraiment légal, développement de jeux, comptabilité, transport, organisation. Ça, c'est vraiment moi qui. C'est dans ma cour, je dirais. Et aussi, bon, Synapse fait partie d'un groupe où il y a un autre studio d'édition, que je gère aussi l'autre studio d'édition qui s'appelle Greater Than Games. Donc, je chapeaute les studios du groupe, dans le fond.
OK. Et est-ce que tu peux expliquer justement l'évolution que tu as dû voir?
L'évolution au niveau de l'industrie, ben moi, j'ai commencé en 2009, donc c'était une autre époque. De l'esthétisme, illustration, les composantes et tout ça, le socio-financement, les différentes plateformes sont déjà très. Quand j'ai commencé, il n'y en avait pas ou très peu. Donc, ça l'a aidé à ouvrir des portes pour avoir des composantes typiques ou qui ne seraient pas possibles d'un point de vue financier. Je pense, exemple, à Zombicide, qui est un des premiers sur le marché à avoir autant de figurines et tout ça. Donc, ça a permis d'apporter des nouveaux matériaux, un nouvel esthétisme. Moi, j'ai Régis de Libellule, le fondateur de Libellule. Je pense souvent à lui comme il a vraiment aidé à rendre l'esthétisme des jeux plus attrayant. On pense à Dixit et tout ça. Je trouve tellement que ça fait partie de l'expérience de jeu et globalement, on prend un jeu qui sort en 2022, 2023, 2024 et un jeu dans les début 2000, c'est deux mondes. Tu sais, au niveau des couleurs, au niveau des manipulations. En fait, c'est pas juste le jeu, c'est un produit en soi qui aide, tant qu'à moi, à l'expérience ludique. C'est tellement plus agréable de jouer avec des pièces qui sont agréables à manipuler, d'avoir un beau visuel qu'un matériel hyper beige et drabe et tout ça. Donc, ça a évolué énormément, au cours des années.
Niveau de l'entreprise, je ne sais pas à combien de salariés vous avez commencé et maintenant où vous en êtes aujourd'hui.
Ben, j'ai commencé, j'étais seul et pas payé. Et j'engageais des contractuels qui étaient souvent des amis, des connaissances et tout ça. Donc, premier employé, moi, je ne suis pas très bon là, avec des fichiers et tout ça. Donc, j'ai été chercher de l'expertise où j'en avais pas. Donc, la première employée, c'est notre directrice artistique encore aujourd'hui. Et la deuxième employée, c'est la directrice du marketing et communication. Donc, en fait, je suis le troisième employé de Synapse. Présentement, nous sommes cinq employés à temps plein, en plus des contractuels, des rédacteurs, des traducteurs, de tous les autres qui aident à pouvoir finaliser un jeu, tout ça. Donc, on est cinq à temps plein après presque 5 ans.
Ok, pas mal. Ça fait presque une personne par an.
Ça fait presque une personne par an, exactement.
Comment ça s'est passé? Vous avez actuellement combien de jeux de société?
De jeux de société, nous en avons probablement une quinzaine. Je fais pas le compte. Et on a des jeux qui sont, j'appelle ça des jeux synapse pure. Ça veut dire des jeux où vraiment on a travaillé avec les auteurs à la base avec des illustrations faites à la main des fois, c'est vraiment au stade prototypal. Donc, ça arrive des cartonnés ou même qu'on imprime ici pour pouvoir le tester et tout ça. Et que là, on va le développer pour arriver avec un jeu final. Donc, ça, on a des jeux Synapse purs, mais aussi des fois, on a fait des collaborations avec des studios. Je pense, par exemple, à Holy Grail pour l'Empire de César, Rallyman, Encyclopédia et tout ça, qu'eux, à la base, étaient une compagnie principalement de Kickstarter et nous, on faisait tout ce qui était distribution internationale pour eux. Donc, ça l'a aidé à faire grandir notre catalogue beaucoup plus vite. Donc, on a vraiment comme différents chapeaux, autant qu'on développe nos propres projets, qu'on vient supporter d'autres studios qui ont besoin de plus de connaissances au niveau de la distribution internationale.
Est-ce que tu participes au festival de jeux de société?
Oui, en fait, j'y vais justement. On était à Cannes cette année, retourne l'an prochain. On était à la Gen Con, qui est un salon aux États-Unis. On était à Essen, au début du mois, qui est presque 200 000 personnes. On fait aussi des salons professionnels qui ne sont pas nécessairement ouverts au public. Et des fois, c'est des événements un peu plus privés, comme Gathering of Friends, qui est un regroupement là, ça par invitation privée. Donc, c'est des places où ce qu'on peut finalement réellement jouer à des jeux pour le plaisir, pas dans l'analyse du travail. Et même ce soir, je pars pour un week-end de jeu entre amis. On va être 35-40 personnes et qu'on se loue un chalet, qu'on joue à des jeux. Donc, j'assiste à plein de types d'événements ludiques de différentes grandeurs, de 35 personnes à 200 000 personnes, des fois publics, des fois professionnels, et ce, sur au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, donc un petit peu partout, là.
OK. Et du coup, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour trouver les solutions concernant la boîte?
Ah oui, être entrepreneur, c'est très agréable, mais ça vient avec son lot de challenges. Notamment, on ne se le cachera pas, la pandémie, très, très compliquée. Oui, les jeux se sont bien vendus, mais il ne faut pas oublier que c'est les jeux qui étaient déjà connus, parce que là, on perd énormément le service conseil. Les boutiques étaient fermées, donc le service conseil se perd et tout ça. Donc, il a fallu repenser tout ce qui est marketing, comment qu'on présente les jeux, parce que les jeux, une des façons de les faire connaître, les gens, il faut qu'ils jouent aux jeux. C'est des façons qui fonctionnent énormément. Donc, pas de bar à jeux, pas de cannes, pas de scène et tout ça. Donc, on a revu notre plan marketing au complet. Dans les dernières années, les réseaux sociaux ont complètement changé. Il n'y avait pas de TikTok voilà 5 ans, ou très, très peu. Je ne me souviens pas la date de création, mais les Instagram, les Facebook, les crises de transport, même si on produit des jeux, ils ne sont pas capables de bouger parce qu'il n'y a pas d'équipement. La rareté des matériaux bruts pendant là, 2 ans. Il n'y avait plus de papier nulle part en Europe. C'était impossible d'imprimer, sauf dans 6 mois peut-être. Donc, il y a eu énormément de chamboulements, même avec la situation en Ukraine ou tout ça. Ça a un gros impact sur qu'est-ce qui se passe, le marché, tout ça. Donc, c'est mon travail, c'est beaucoup. Comme on est spécialisé surtout à l'international pour vendre nos jeux, c'est de comprendre c'est quoi les impacts des différents pays. Exemple, l'Allemagne dépend à 60% d'énergie de la Russie. Donc, ça a un impact direct sur la situation économique. Qu'est-ce qui arrive au niveau des jeux? Comment qu'on peut les aider? Fait qu'on travaille beaucoup en collaboration avec tous nos distributeurs. On a des distributeurs dans une quarantaine de pays. Donc, c'est d'essayer de comprendre la réalité de chacun de ces distributeurs-là et voir comment on peut travailler avec eux pour, un, les supporter d'un point de vue marketing, d'un point de vue de c'est quoi leurs besoins réels? Parce qu'en bout de ligne, ce qu'on veut, c'est avoir du plaisir et que le joueur ne se rende pas compte de toutes ces étapes-là, de tous ces challenges-là. On veut que le jeu soit disponible, on veut créer toujours du plaisir et tout ça. C'est ça notre vrai challenge, c'est comment garder le jeu à l'état de plaisir tout en enlevant le côté politique et économique et tout ça. Donc, c'est le gros challenge.
Et le recrutement s'est bien passé?
Le recrutement, ça vient passer. Notre directrice artistique, j'avais déjà trié elle dans le passé. Notre directrice des communications, ben, c'est ma conjointe, fait que ça s'est très bien passé. Ensuite de ça, il y a beaucoup de gens, comme ça fait longtemps que je suis dans l'industrie, il y a beaucoup de connaissances et tout ça. Et en général, moi, je vais avoir du plaisir en travaillant et j'aime travailler avec des gens que je sais que je m'entends bien et qui peuvent aussi apporter quelque chose. Je ne veux pas engager que mes amis. Il faut qu'il y ait une raison quand même parce que sinon, ça ne fonctionnerait pas. Mais j'essaie de m'entourer de gens que j'apprécie, de gens que j'ai confiance, de gens compétents et tout ça. Et naturellement, il y a comme une espèce de mélange qui se fait. Puis là, même, on a engagé des gens que moi, je n'avais pas travaillé avec eux. Mais ma collègue avait déjà travaillé avec cette personne-là. Donc, tu sais, il y a une espèce de lien de confiance, de facilité. Et quand on vient pour faire une intégration, ça ne fait pas étrange. C'est vite, il embarque dans l'équipe. Vite, il y a une espèce d'esprit de cohésion. Tu sais, ça vient très, très naturellement et il y a énormément d'entraide parce qu'à quelque part, tout le monde veut que ça fonctionne et on est tous tissés d'une certaine façon ensemble.
Et alors, quels sont les projets futurs?
Les projets futurs, pour l'an prochain, 2024, parce que là, on vient juste de lancer Pyramido il n'y a pas longtemps, cet automne. Donc, 2024, on a déjà annoncé qu'on faisait Yokohama, qui est une réédition d'un jeu qui est gros placement d'ouvriers et tout ça. On va avoir un jeu de cartes qui est Take That. On appelle ça un coup de pute, je crois, en France. Donc, énormément d'interactions. Il va être à Cannes, justement. On vient d'annoncer aussi Finding Atlantis. Donc, ça va être un compétitif qui fonctionne avec une application. Faut trouver l'Atlantis. Ça va être un jeu de déduction, de recherche et tout ça. Et c'est aussi, on va le présenter à Cannes. Donc, vous allez pouvoir venir nous voir. Donc, on a vraiment des jeux Autant des jeux très, très accessibles à du gros jeu de placement d'ouvriers, des jeux de déduction. Donc, on vise plus large en termes d'offres parce que on ne veut pas compétitionner contre nos propres jeux et on veut offrir des jeux qui sont un peu différents aussi de ce qu'il y a déjà présentement pour se démarquer et offrir quelque chose de nouveau aux joueurs aussi.
Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi le nom de cette boîte?
Ah, ben oui. Comme je le disais, moi, je viens du domaine médical, du domaine de la santé. Et les synapses dans le cerveau, ça sert à faire des connexions. Pour moi, les jeux, ça sert à faire des connexions entre les joueurs. Il y a de l'interaction, on échange, on prend un verre, on joue et tout ça. Donc, pour moi, les synapses, ça fait des connexions entre les joueurs. Donc, ça fait un lien avec mon passé du domaine de la santé et que je transpose ça du côté des jeux. Et quand on regarde le logo, il y a une synapse plus foncée qui est plus grande, une synapse plus petite qui est plus pâle, ça représente la famille aussi, chose qui est une valeur très importante pour moi. Et en général, on fait des jeux familiaux aussi, donc ça venait rechercher tout ça.
Ok. Et comment tu as fait pour intégrer des jeux de société au fur et à mesure et combien de temps sans je ne sais pas si tu as déjà créé un jeu de société.
En fait, le premier jeu de société de Synapse, je suis l'auteur, ça s'appelle Incubation. On récoltait des œufs de dragons qu'on mettait dans notre incubateur. On voulait les faire éclore pour ramasser des dragons qui nous faisaient une espèce de collection de dragons. Donc, je me suis dit, si le jeu fonctionne, ben, tant mieux, je suis très content. Si ça ne fonctionne pas, je n'aurais pas pénalisé un auteur parce que je suis incompétent en tant qu'éditeur. Finalement, ça a bien été. Donc, j'ai commencé à signer des jeux avec des auteurs aussi et j'ai appris aussi avec le temps, faut toujours apprendre dans la vie. Donc, faut toujours s'améliorer, c'est toujours ça le but. Donc, j'ai commencé à travailler avec des auteurs par la suite et j'ai souvent, comme plein d'auteurs, ah, j'ai plein d'idées de jeux. Il y en a plein qui aboutissent pas, c'est pas grave. Mais il y a Match 5 aussi, donc le quatrième jeu de Synapse, qui est un jeu de fallait faire des combinaisons d'idées. Exemple, un fruit est rouge, ça peut faire une fraise ou une cerise, une tomate. Donc, ça aussi, ça a très, très bien fonctionné. Donc, j'ai fait deux jeux. J'ai vraiment créé deux jeux. Et je suis en coding pour un troisième jeu éventuellement là, qui va s'en venir dans le catalogue de Synapse. Donc, je ne me vois pas tant comme un auteur. Mon travail, c'est vraiment éditeur, mais ça n'empêche pas que quand j'ai l'impression que j'ai une bonne idée et que les tests se passent bien, puis tout ça, et que ça apporte quelque chose, à ce moment-là, je l'intègre dans le catalogue Synapse.
Et ça t'a pris combien de temps de créer le jeu?
Un jeu, en général, une fois qu'on signe avec un auteur, ça peut prendre 2 ans avant que ça arrive en boutique ou sur les tables des joueurs. Donc, il y a quand même beaucoup d'étapes. Le développement, c'est long. Parce que des fois, on a des fausses bonnes idées. On dit, ah oui, on pourrait améliorer le jeu, faire ça. Et on se rend compte que c'est complètement catastrophique. Ça débalance le jeu. Ça change l'esprit du jeu en lui-même. Donc, juste le développement de jeu peut être très, très long. Une fois que le développement de jeu est abouti, il y a tout ce qui est direction artistique, tout ce qui est recherche derrière ça. Il y a beaucoup d'allers-retours. Il y a des sketchs, il y a des colorations et tout ça. Après ça, il y a quel genre de matériel qu'on met dedans, le choix des matériaux. Justement, je pense à un jeu Quattro qu'on avait sorti, qui est un jeu avec des serpents aztèques. Même le tissu du sac, on avait été chercher un tissu qui ressemblait à un tissu mexicain pour vraiment aller dans l'univers de Quattro. Donc, il y a beaucoup de petits détails qu'au final, les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte. Mais tout ça, toute cette recherche-là prend énormément de temps, en plus du transport, de la production, le marketing et tout ça. Donc, c'est un bon 2 ans pour nous travailler sur un jeu.
Et donc, j'avais appris par les personnes qui aiment jouer aux jeux de société. Beaucoup de joueurs n'aiment pas lire les règles. Et quelles sont tes astuces pour éviter de lire les règles?
C'est vrai. En fait, un jeu, le plus gros frein, c'est les règles. Parce que c'est intimidant et quand ils pensent, quand on veut jouer, notre but, c'est d'avoir du plaisir le plus rapidement possible. Donc, c'est pour ça que les gens vont retourner jouer à des jeux qu'ils connaissent déjà parce qu'ils arrivent au plaisir le plus tôt possible. Donc, on se questionne beaucoup quand on écrit des règles, comment les faire efficacement. T'sais, au début, c'était écrire des règles avec le moins de mots possible tout en étant clair. C'est un défi, écrire des règles. C'est pas la partie que je préfère, mais je sais que c'est hyper important. Pour Pyramido, on a fait quelque chose de différent. On appelle ça le livret de règles IKEA. C'est que, comme on sait que les gens n'aiment pas lire, ce qu'on a fait, c'est on a fait une image, une ligne de texte, une image, une ligne de texte. Donc, à chaque fois, on intègre des images à une seule explication pour vraiment faciliter la lecture, mais aussi, c'est si on cherche un point de règle pendant la partie, on est capable de le trouver en 10 secondes. Donc, c'est vraiment l'astuce qu'on a essayé d'apporter, en plus de faire des vidéos explicatives et tout ça, pour chacun de nos jeux, on essaie de concevoir les règles pour que facilement on puisse retrouver l'information exactement quand on veut, très rapidement. Et c'est pour ça la façon d'écrire les règles, l'ordre de l'écrire des règles doit être extrêmement intuitive. Exemple, avant de compter les points, il faut savoir comment placer le jeu.
Ok. Et quels sont tes, enfin, oui, ton type de jeu de société et ton jeu du moment?
Mon type de jeu de société, moi, je suis un jeu de cartes. Donc, les jeux de cartes, spécialement des jeux de levée à la The Crew et tout ça, j'adore. Ça, c'est vraiment. À tous les jours, on pourrait m'en proposer. J'adore ça. T'sais, je pense que mon meilleur jeu de cartes, c'est Tichou. Justement, il y a eu une réédition il n'y a pas longtemps. C'est un jeu de levée, ça joue en équipe et tout ça. Je trouve ça génial comme jeu. Donc, jeu de levée, j'adore ça énormément. Mon jeu du moment, on joue tellement des prototypes en tant qu'éditeur. Je dois dire que je ne joue pas beaucoup ces temps-ci à des jeux déjà édités. Je joue probablement à 10 prototypes pour un jeu déjà édité. Donc, cette semaine, on a joué à C'est ce qui prend, que j'adore. C'est un jeu de cartes. J'aime ça quand il y a de l'interaction. J'aime ça quand c'est efficace. Ça roule bien. Donc, C'est ce qui prend. Là, on travaille beaucoup sur Finding Atlantis. Donc, forcément, on joue. Et le jeu que j'ai joué le plus dans la dernière année est Pyramido. J'ai plus que 100 parties faites cette année et plus que 100 parties faites l'année dernière. Fait qu'on joue beaucoup, beaucoup aux jeux qu'on travaille dessus, qu'on développe ou des jeux qu'on veut travailler dessus éventuellement. Mais sinon, c'est beaucoup les jeux de cartes. Et c'est pour ça que je m'en vais aussi ce week-end à un chalet de jeux. C'est pour découvrir plein de jeux que habituellement, je n'ai pas le temps d'essayer. Donc, ça me sort de ma bibliothèque ludique ici. Tout le monde apporte des jeux et c'est là que je peux vraiment jouer, essayer, me faire une opinion, avoir du plaisir juste pour le plaisir de jouer.
Et en concernant la rémunération, comment tu as fait au début et au fur et à mesure, est-ce que tu as réussi à te rémunérer à un SMIC ou même plus? Comment ça s'est passé?
Au début, j'ai payé. Et ça a pris un bon 3 ans avant que je puisse commencer à être payé. Donc, la première fois que j'ai été payé, je m'étais fait un contrat d'auteur pour mon premier jeu incubation. Donc, je me versais des royautés quand il y avait des ventes. Donc, c'est pour ça. Ça fait que, mais on ne vit pas d'un jeu, à moins de. Je ne suis pas un Bruno Catala. Je suis quand même conscient. C'est aussi pour ça que la collaboration avec Scorpion Masqué m'aidait énormément parce que c'était Scorpion Masqué qui était mon vrai travail. Après, c'est sûr que ça me fait faire. J'ai deux travails à temps plein pour pouvoir faire vivre Synapse, développer Synapse et en même temps avoir une source de revenus, mais bien faire mon travail chez Scorpion Masqué aussi. Donc, pendant 3 ans, les seules choses que je recevais, c'était des royautés pour des jeux que j'avais faits. Et à partir de la troisième année, c'est là que j'ai pu me verser un premier salaire pour Synapse. Pour moi, c'était plus important que je m'entoure de gens de confiance qui remplissaient des compétences que moi, je n'avais pas, notamment notre directrice artistique et tout ça. Donc, c'est pour ça que je suis officiellement le troisième employé de Synapse, parce que c'est pour moi construire une équipe qui va aider Synapse à grandir et tout ça est plus importante que de me verser un salaire. Après, c'est sûr qu'il faut en vivre, mais ce n'était pas la première priorité pour pouvoir que Synapse atteigne un autre niveau.
Que tu arrives à en vivre aujourd'hui.
J'arrive à en vivre aujourd'hui.
Bravo.
Merci.
Et tu travailles toujours à côté avec Scorpion Masqué ou tu as arrêté?
Non, j'ai arrêté. Scorpion Masqué, dans le passé, a vendu à Hachette. Et là, il y a eu une rediscussion de comment on est tout ça. Et par rapport aux besoins de chacun des deux parties, on a pris la décision de finir ce qu'on avait débuté. Et après ça, j'ai commencé à Synapse à temps plein. Donc, ça fait un an et demi environ que je fais Synapse à temps plein, que c'est ma seule source de revenus et que j'ai envie capable d'aller au restaurant une fois de temps en temps.
Et c'est quand que tu t'es dit, ok, c'est bon, là j'arrive, je peux vivre pleinement de snaps et je vais arrêter Scorpion Masqué.
Ben, je l'ai su assez tôt parce que Synapse a décollé très rapidement et même la première année, on n'avait pas de dette. Donc ça c'est un très, très bon signe. C'est plutôt le questionnement de est-ce que je vais commencer à me payer un salaire ou j'engage quelqu'un d'autre pour joindre à l'équipe, pour vraiment venir supporter le travail parce que dans une compagnie d'édition, il y a tellement de tâches diverses qu'une personne seule ne peut pas y arriver. Même deux personnes seules. L'autre fois, tu as eu une discussion, une entrevue avec Hélène Vigneault, justement du Scorpion Masqué. Elle est spécialisée dans son domaine, elle s'occupe de la logistique, il y a beaucoup de suivi de production. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Comme ce n'est pas tout le monde qui peut faire du développement de jeu, ce n'est pas tout le monde qui peut travailler sur des fichiers, tout ce qui est légal et comptabilité aussi. Donc, pour moi, je savais que je pouvais me verser un salaire, mais en même temps, je ne voulais pas compromettre la garantie d'emploi des autres parce que même si on a une bonne année, il n'y a rien qui dit que l'an prochain, ça va continuer ou que nos sorties vont être bonnes ou qu'on continue à réimprimer. Donc, pour moi, d'assurer une sécurité d'emploi de ceux qui sont là et d'engager des personnes clés qui pouvaient venir aider à supporter l'équipe, c'était plus important que de me payer un salaire.
Ok.
J'essaie de vivre sur le long terme.
Ben c'est bien. Ça veut dire que tu projettes Snaps sur du long terme.
Ah oui, ben déjà dans les jeux signés, notre calendrier il a déjà été entamé pour 2026. Donc, on a déjà un plan de fait pour 2026. Puis on est en 2023, là.
Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ton travail?
J'adore le domaine. Tu sais, j'aime être en contact avec les jeux. Je disais plutôt que j'avais été dans différentes sphères du jeu de société, tant la distribution, l'édition que la production. Vraiment, l'édition de jeu, pour moi, c'est ce que j'aime le plus parce que c'est là qu'on a plus les mains dans le jeu. Développer des jeux, j'adore ça. Choisir quelles composantes qu'on va dedans, regarder le t'sais, vraiment le côté artistique de à quoi ça va ressembler, d'avoir une espèce de vision puis d'un projet long terme sur 2 ans. Puis l'excitation de quand on se rapproche d'une sortie, ou même de le présenter à des distributeurs, autant on est excité qu'on est angoissé. Je compare ça à un lancement de film. Tu arrives sur le tapis rouge, même si tu as fait de ton mieux et que tu crois que tu as pris les bonnes décisions, en bout de ligne, c'est le public qui juge. Et ce jugement-là fait peur. Et là, quand tu as les premières critiques ou tu arrives à Cannes, tu vois les gens qui sourient, qui aiment ça, c'est ça qui compte. C'est ça la vraie récompense parce que en bout de ligne, si on fait les jeux, c'est pour qu'ils soient joués et que les gens aiment ça. Et c'est vraiment hyper gratifiant. Et à chaque fois qu'on a des bons commentaires, soit sur une direction artistique, soit sur il y a une critique qui sort de peu importe, le jeu est hyper apprécié. Moi, je partage tout le temps ça avec l'équipe, disais, hey gang, on a fait une bonne job, t'sais, on a réussi. C'est une réussite commune de gens qui ont travaillé ensemble pour un projet qu'en bout de ligne, qui crée du plaisir.
Est-ce que tu peux nous expliquer aussi au niveau du logement? Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé au début, si c'était chez toi que tu as créé ta boîte et au fur et à mesure, tu as commencé à acheter ou louer un endroit pour. Est-ce que tu peux expliquer tout ça, la côté logistique, comment tu as géré ça?
Oui, ben en fait, au début, ben moi, je n'avais pas d'investisseur ou quoi que ce soit. Fait que j'ai pris mes économies pour débuter Synapse. On limite les coûts. Et mon bureau était ma salle à manger, ma table de cuisine. Ce n'est pas optimal, mais c'est ça. plus tard après ça, quand j'ai engagé quelqu'un, ça se faisait chez moi. On avait dédié une pièce à ça. On travaillait sur des bureaux. C'était une micro microscopique pièce, c'était tout petit. On était coincés, on ne pouvait pas rien tester, mais il y a deux ordinateurs qui rentraient là-dedans avec des bureaux et des chaises, c'est tout. Là, on voyait que ça évoluait. Louer des locaux, ça, justement, c'est un risque de plus parce que là, on s'engage sur un bail et tout ça, et souvent, c'est sur du long terme. Donc, je n'aurais pas le choix de déménager. Donc, j'ai déménagé pour acheter une maison plus grande avec un très grand bureau pouvant, même si on était deux, je dis, il faut que ça puisse accueillir au moins 5 personnes. Je veux lumière, je veux qu'on puisse avoir de l'espace pour tester. Donc, on a vraiment une pièce dédiée à ça, salle de bain et tout ça. Donc, on a vraiment un espace. Ça fait partie de ma maison toujours, mais on est quatre qui travaillent ici. Le télétravail est chez nous, donc il y a quelqu'un qui travaille de chez lui, qui vient une fois de temps en temps au bureau qui est à la maison. Là, récemment aussi, c'est à louer des. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France. Ici, on appelle ça des share space. Donc, c'est des bureaux communs
Des
qu'on
espaces.
va louer. Oui. Puis, donc, c'est différentes entreprises qui sont là-dedans, mais on peut avoir des locaux privés et des espaces communs où on peut échanger. Donc, on a vraiment plein de possibilités. Soit c'est du excusez, télétravail, soit on vient travailler au bureau à la maison ou au share space, au bureau commun qui se fait aussi.
OK. Juste pour te prévenir, dans 5 minutes, ça va s'arrêter, mais ne t'inquiète pas, tu recliques exactement sur le même lien et ça va se rouvrir.
Parfait.
Quels sont les conseils que tu donnerais aux personnes qui font le même métier que toi ou qui ont envie de faire le même métier que toi?
C'est important d'aimer ce que vous faites parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais si vous aimez ce que vous faites, vous allez avoir du plaisir. Moi, j'ai énormément de plaisir. Attendez-vous à ce que ça ne fonctionne pas comme vous pensez. Il y a toujours des surprises, mais c'est ce qui est stimulant aussi. C'est comme ça que vous allez grandir. C'est comme ça que vous allez évoluer. Tout est relié. C'est uniquement la façon que vous allez gérer les imprévus. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez grandir ou vous allez stagner. Fait qu'il va y avoir des embûches, mais il va y avoir énormément de récompenses aussi. Écoutez les gens autour de vous. Un peu, pas trop. C'est quand même votre rêve, c'est quand même votre idée. Mais c'est important d'être à l'écoute. C'est important de m'entourer. Et faites-vous confiance. C'est important de se faire confiance. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour dire oui, mais ça ne fonctionnera pas. Oui, mais c'est dangereux. Oui, mais. Mais c'est ton rêve, vas-y. C'est ce que je dis.
Ouais, c'est pas mal. Et concernant les jeux de société, toi, tu travailles justement 70 heures par semaine ou pas du tout? Comment ça se passe en semaine?
La semaine, ça fait. Ben, si je recule de là 5 ans, quand j'ai lancé Synapse et je faisais Scorpion masqué, c'est deux emplois à temps plein en même temps. Donc, si on fait le compte, c'est. Je faisais 60 heures par semaine, probablement. Honnêtement, je ne compte pas mes heures parce qu'à un moment donné, on le sait qu'on en fait beaucoup. Juste de commencer à les compter, ça enlève le plaisir de ce qu'on fait. Puis à un moment donné, ça vient une charge lourde, mais probablement que je faisais 100 heures par semaine. Et j'ai une famille aussi, donc faut trouver un équilibre. Quand on a un bon équilibre, ça va bien partout. Quand les équilibres, c'est là que ça se met à pas bien aller. Donc, moi, j'avais un équilibre à 60 heures par semaine. Par contre, ça devient fatigant avec le temps. Maintenant, je suis chanceux. J'ai une plus grosse équipe. On travaille. Il y a vraiment du monde que je peux compter sur eux. On a une situation financière beaucoup plus stable, moins précaire qu'au début. Je peux maintenant faire des semaines uniquement de 50 heures. Ça fait du bien. Et il faut dire que maintenant, j'ai un seul travail. Fait que ça fait du bien. 50 heures par semaine, à part en temps de salon, je fais plus de 70 heures ou 80 heures par semaine. Si on veut continuer de faire du travail de qualité, d'avoir un esprit clair, c'est important aussi de décrocher.
Et est-ce que ton but, ça serait justement de diminuer un peu le taux horaire pour passer plus de temps avec la famille ou pas forcément?
Je passe quand même beaucoup de temps avec la famille parce que le travail est chez moi. Je n'ai aucun déplacement à faire. Donc, tu sais, j'ai des ados qui sont rendus souvent dans le sous-sol ou à l'extérieur. Ça me permet de faire d'autres trucs et tout ça. J'ai pas l'impression de négliger aucun aspect de ma vie présentement et j'aime ma vie, j'aime mon horaire, j'aime ce que je fais. Fait que tant que mon équilibre est conservé, et que tout le monde autour de moi est heureux, j'ai pas vraiment de raison de changer ce qui fonctionne bien.
Et t'arrives à avoir des vacances?
J'arrive à avoir des vacances.
Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes posent des vacances, mais justement pour aller au festival. Et je me disais, bah, en fait, le festival, ça fait un peu partie du travail, donc je sais pas.
Ah oui. Ah oui. Exemple, je vais donner un exemple. Je vais à Cannes, par exemple. Pour nous, c'est déjà une journée complète de voyagement parce qu'on est outre-mer. On voyage souvent pendant la nuit, donc on dort peut-être 3 heures. C'est pas génial. Et ensuite de ça, on arrive, il faut monter le kiosque et tout ça. Cannes, les heures sont assez longues, là. Donc, on commence petit déjeuner et tard le soir, les soirées de jeu et tout ça. Donc, c'est facilement un bon 12 heures par jour et peut-être même plus 14 heures par jour. En plus du décalage horaire qu'on a, en plus du déplacement, en plus, c'est le week-end, on travaille quand même, ou tu sais. Mais ça fait partie du boulot. Tu sais, quand on est ici, à Mal, on fait pas 14 heures par jour. Le week-end, je travaille des fois 1 heure, 2 heures. C'est pas si mal si j'ai des trucs à rattraper. C'est pas excessif.
Que tu as le temps donc de jouer avec ta famille?
J'ai le temps de jouer avec ma famille. Justement, des unlocks. On fait beaucoup d'unlocks à la famille. Même si ça fait partie, le temps des fêtes, c'est sûr qu'on fait un unlock. On achète la dernière boîte et des trucs comme ça. On joue moins en famille qu'avant, principalement à cause de l'âge où mes enfants sont rendus. Ils sont moins intéressés